participer aux émissions de Radio Okapi, n'hésitez plus. Envoyez un SMS au 081 294 65 02.
Maître Dominique Kamandou, bonjour.
Bonjour Jody.
Et bon début de semaine.
Merci à vous autant.
Je vois que vous êtes en plein forme, maître.
Voilà. Ça va par la grâce de Dieu.
Voilà, avec vous, on démarre la semaine avec ce sujet. On parle du mariage civil. Je suppose que le week-end, il y a eu beaucoup de mariages. Hein. Vous savez, surtout le samedi, à partir du vendredi. Hein, voilà, Tati me le confirme, depuis à partir de vendredi déjà, samedi, voire même dimanche, hein, il y a des mariages qui sont célébrés un peu partout à travers le pays. Alors, passage obligé avant le mariage religieux, le mariage civil célébré à la commune par le bourgmestre constitue une union officielle devant la loi. Il s'agit d'une étape très importante, à ne pas négliger, qui demande une certaine préparation. Cependant, en République démocratique du Congo, bon nombre de gens vivent plutôt en union des fêtes, qu'on appelle généralement Yakatofanda, où certains se contentent du mariage coutumier. Alors, quels sont les avantages de contracter un mariage civil, maître Dominique?
Merci beaucoup, Jody. Nous précisons d'abord que, conformément à la loi, le mariage peut revêtir deux formes. Le mariage civil, comme on se l'est dit. Oui. Le mariage doit d'abord être célébré en famille, c'est-à-dire qu'il faut que les deux familles se mettent ensemble, qu'il y ait remise de la dot, parce que la remise de la dot est une des conditions indispensables du mariage. C'est-à-dire, lorsqu'il n'y a pas eu versement de dot, on ne peut pas avoir le mariage. Et lorsque cette étape de la famille est réalisée, on peut, soit dans le mois qui suit, procéder à l'enregistrement du mariage devant l'officier de l'état civil. C'est-à-dire que les deux conjoints et deux témoins qui ont participé ou qui ont assisté à la cérémonie de mariage coutumier peuvent se rendre devant l'officier de l'état civil et procéder à l'enregistrement du mariage. La deuxième formalité ou la deuxième forme, c'est que après la célébration du mariage en famille, on va procéder aussi à l'enregistrement du mariage devant l'officier de l'état civil. À ce moment-là, les deux conjoints font devant l'officier de l'état civil la déclaration, remplissent les formulaires requis et demandent que leur mariage soit célébré. Et dans ces cas-là, l'officier de l'état civil procède à la publication des bans et les jours J célèbrent solennellement le mariage. C'est pour cela même que, en droit congolais, on dit que le mariage civil est un acte solennel, public, qui est célébré par l'officier de l'état civil. Et c'est ça qui accorde au mariage les caractères juridiques, la reconnaissance juridique de l'union. Parce que lorsque le mariage s'est limité au niveau de la famille, il reste opposable seulement aux personnes qui y ont assisté. Oui. Et ces mariages n'est pas opposable aux tiers et on ne peut pas se prévaloir de ces mariages devant les instances publiques, devant les organes de l'État et devant la justice.
Alors prenons, partons d'un exemple. Vous avez, le mariage a été contracté, célébré en famille, le mariage coutumier. Après ça, vous allez voir le bourgmestre qui publie les bans. Les bans, c'est des annonces officielles, n'est-ce pas?
Oui.
Qui sont imprimées et affichées pour permettre à tout le monde de voir. Peut-être qu'on place également les photos des deux partenaires, mais il arrive qu'il y a une dame qui se présente qui dit non, je suis contre ce mariage parce que c'est mon mari. Qu'est-ce faire dans ces cas-là?
Dans ces cas-là, la personne qui se présente doit prouver qu'il existe un lien de mariage entre lui et l'homme qui veut contracter un mariage. Parce qu'au sens de la loi, le mariage est célébré entre deux partenaires lorsque l'un des deux n'est pas lié par un lien de mariage qui n'est pas encore dissous. Lorsque la personne est encore liée par un autre lien de mariage, on ne peut pas célébrer ou enregistrer un deuxième mariage.
Et si c'était une union de fête
Si c'est une union de fête, ce n'est pas un mariage. L'officier de l'état civil va passer outre s'il n'y a pas de preuves et célébrer le mariage et procéder à la célébration du mariage tel que demandé.
Même s'ils ont eu des enfants, cinq enfants, même si c'était Yakatofanda, donc on ne tient pas compte de tout ça.
En tout cas, si il n'y a pas eu versement de la dot, il n'y a pas eu d'enregistrement du mariage, comme on dit Yakatofanda, et s'il y a eu des enfants, l'officier de l'état civil va demander au conjoint, à l'époux, s'il reconnaît ses enfants, de les affilier, c'est-à-dire les reconnaître juridiquement parce qu'il a des droits et des obligations vis-à-vis de ses enfants qui sont ses enfants. Mais en ce qui concerne la dame qui s'est entraînée dans une union libre, elle n'est pas reconnue par la loi.
Voilà, dans cette émission, les auditeurs appellent pour poser leurs questions. Et notre invité là pour vous rendre service, nous avons déjà en ligne Jean-Louis Ngayo depuis Kolwezi. Bonjour.
Bonjour.
Oui, quelle est votre préoccupation?
Ah oui, donc ma préoccupation concerne l'émission d'aujourd'hui, là, le sujet même.
Oui.
Moi, je viens de faire l'expérience et je trouvais que beaucoup de gens ne veulent pas contracter le mariage devant l'officier de l'état civil et ils vivent comme ça. Alors, quels sont les inconvénients lorsque les gens ne veulent pas, en ce moment-là, contracter leur mariage devant l'officier de l'état civil?
Merci beaucoup Jean-Louis, on précise d'abord que pour ces personnes, leur union n'est pas juridiquement protégée. Leur union n'est pas protégée, leur union n'est pas reconnue par la loi. S'il y a eu un mariage célébré en famille, ce mariage est seulement opposable aux personnes qui ont assisté. Donc ces personnes ne peuvent pas se prévaloir de ces mariages devant les instances judiciaires ou devant les organes de l'État et devant le public. Et la deuxième conséquence, le deuxième inconvénient est que, en cas de problème, ils ne peuvent pas se prévaloir de ce lien de mariage. Donc c'est en droit un mariage de fait qui est peut-être, on peut dire que c'est un mariage qui est assimilable à l'union libre. Ce n'est pas un mariage reconnu. Et la grande difficulté aussi, c'est que, en cas de succession, lorsque l'un des conjoints arrive à mourir, celui qui reste ne peut pas prétendre juridiquement à la succession parce qu'il n'est pas reconnu comme étant conjoint survivant au sens de la loi.
Voilà, c'est là la réponse. Voilà, vous avez des préoccupations, des questions, composez le 081-890-63-94. Alors, Maître Dominique, quelles sont par exemple les conditions qui entourent ce mariage civil? Si vous voulez vous présenter devant l'officier de l'état civil, quelles sont les conditions auxquelles il faut remplir?
Merci beaucoup, Jody. Cela nous amène à parler d'une manière générale des conditions pour qu'il y ait un mariage régulier.
Oui.
Pour que le mariage soit régulier, la loi donne des conditions. Il y a ce qu'on appelle des conditions de forme et des conditions de fond. Pour ce qui est des conditions de fond, la première condition, c'est le consentement des parties. C'est-à-dire, les parties doivent décider librement de leur mariage, doivent donner leur consentement. La deuxième condition, c'est la capacité. C'est-à-dire, les deux futurs conjoints doivent être capables de pouvoir s'engager juridiquement, doivent être capables de pouvoir donner librement leur consentement et de s'engager.
Oui.
Et selon la législation congolaise, la capacité est requise à partir des 18 ans d'âge. La troisième condition, c'est le versement de la dot, c'est-à-dire pour que le mariage puisse être valable, l'homme ou sa famille doit verser la dot à la famille de la femme, selon les formes prescrites par les coutumes de la famille de la fiancée. Ce sont là les conditions de forme. Ce n'est que de fond, ce n'est que lorsqu'on a rempli ces conditions qu'on peut se rendre devant l'officier de l'état civil pour demander l'enregistrement ou la célébration du mariage civil.
Est-ce qu'il faut aussi mettre un certificat d'examen prénuptial délivré par le médecin?
La loi n'exige pas ça comme condition,
oui.
Mais l'officier de l'état civil peut conseiller aux futurs conjoints de procéder aux examens prénuptiaux, aux examens médicaux préalables pour garantir la stabilité de leur union, l'harmonie et l'épanouissement. Mais cela n'est pas une condition requise par la loi. Et ce n'est que lorsque ces conditions sont réunies que l'officier de l'état civil peut enregistrer ou célébrer le mariage.
Pour participer à Okapi Service, appelez au 081 890 63 94 et envoyez vos SMS au 081 070 20 50 ou bien écrivez-nous à action@radiookapi.net. Okapi.
En ligne, Jean-Claude nous appelle depuis Kananga. Bonjour.
Bonjour, monsieur.
On vous écoute.
Ma préoccupation est la suivante.
Oui.
Il y a un problème qui se passe, par exemple, quelqu'un, moi, par exemple, je me suis marié, j'ai donné les dots, tout ça. Et vous arrivez à la commune, on va vous exiger, il faut donner 10 casiers de bière, 10 chaises plastiques, tout ça. Et si je n'ai pas assez de moyens, je ne sais pas s'il y a des conditions comme ça et que l'État exige aux mariés de donner avant de se présenter à la commune pour le mariage civil. Bon, c'est ce qui empêche aussi les gens. Par exemple, moi, je me suis marié, je vais me présenter là-bas, il y a des conditions comme ça et qui ne vont pas me permettre peut-être de passer mon mariage civil.
Et ça te décourage?
Oui, ça décourage des fois.
Maître Dominique.
Merci beaucoup. Les conditions que nous avons données sont des conditions légales prévues par la loi. En ce qui concerne les exigences au niveau de l'officier de l'état civil au niveau des communes, nous précisons qu'il ne s'agit pas des conditions requises par la loi. Ce sont des conditions ou des frais illégaux qui sont exigés. Parce que on se rend compte qu'il n'y a pas uniformisation de ces exigences dans toutes les communes.
Oui.
C'est bien sûr qu'on peut prévoir la loi en matière administrative, on peut prévoir que l'on paye une taxe ou que l'on paye certains frais administratifs. Mais ce que l'on rencontre en pratique, ce sont des exigences de fait. Ce n'est pas vraiment des exigences prévues. Ce n'est pas reconnu par la loi. C'est une interpellation que nous sommes en train de lancer, par exemple, à l'endroit du ministère de l'Intérieur et au niveau des gouverneurs des provinces, pour que ces autorités puissent prendre, par exemple, un acte, un arrêté qui uniformise les frais administratifs à payer pour l'enregistrement ou pour la célébration du mariage, parce que nous constatons effectivement qu'il y a beaucoup d'abus. Oui. Et beaucoup d'exigences extra-légales.
Oui, on vous demande d'amener, par exemple, 10 chaises.
Parfois, quelqu'un m'a parlé d'une bouteille de whisky Johnny Walker et bien d'autres.
D'autres casiers prêts pour ceux qui vont assister au mariage, voilà.
Et ces actes peuvent être même assimilés à la concussion, c'est-à-dire le fait pour les agents de l'État ou les autorités administratives d'exiger des frais pour faire ou poser les actes de leur devoir. Oui. Et cela peut être assimilé à la concussion.
Et on peut même porter plainte contre ça.
Et effectivement, si on exige cela, ça devient une concussion et c'est une infraction réprimée par le droit congolais.
Prince Mwanda est en ligne depuis Kananga. Prince, bonjour.
Bonjour, c'est Prince Mwanda Kananga. Je voulais demander ceci.
Oui.
Si un mari a déjà poussé sa femme, on a enregistré le mariage à la commune pour la première fois. Et cet homme voulait encore épouser une deuxième femme. Est-ce que ça sera encore l'obligation d'aller encore enregistrer le mariage à la commune ou bien c'est déjà fini?
Merci beaucoup, Prince. Le droit congolais consacre le mariage monogamique, c'est-à-dire un homme, une femme. La polygamie n'est pas reconnue par la loi. Dès lors qu'il y a un mariage enregistré ou célébré, et qui n'est pas encore dissous, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu divorce ou il n'y a pas eu décès de l'un des conjoints, l'autre conjoint n'est pas autorisé à pouvoir se marier encore. Donc la deuxième union est nulle devant la loi.
Voilà, la deuxième union est nulle devant la loi. Eric Seboué est en ligne depuis Kananga toujours. Voilà, un coucou spécial aux auditeurs de Kananga qui participent nombreux à cette émission. Eric, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur.
Oui, quelle est votre préoccupation?
Oui, ma préoccupation est la suivante. Je voulais demander à notre invité concernant les régimes matrimoniaux qui sont exigés lors du mariage civil. Alors, qu'il puisse un peu m'expliquer concernant les trois formes de régimes matrimoniaux exigés lors du mariage civil. C'est un peu ça.
Merci beaucoup, Eric. Les régimes matrimoniaux ne sont pas exigés, mais les régimes matrimoniaux sont des prescriptions légales pour permettre aux époux de pouvoir prendre des garanties et des dispositions pour la gestion de leur patrimoine ou la gestion de leurs biens. La loi propose trois types de régimes. Et au moment du mariage civil, on demande aux futurs époux de choisir un régime de leur choix. Nous avons le régime de la communauté universelle, c'est-à-dire que tous les biens des conjoints acquis avant ou après le mariage font partie du patrimoine commun. Le deuxième régime, c'est le régime de la communauté réduite aux acquis, c'est-à-dire que les biens acquis par les conjoints avant leur mariage demeurent la propriété exclusive de chacun des époux. Et les biens acquis pendant les mariages constituent la masse commune, c'est-à-dire la communauté ne porte que sur des biens acquis pendant le mariage. Et c'est ce régime qu'on appelle le régime des droits communs. Cela veut dire que lorsque les conjoints n'ont pas choisi eux-mêmes un régime au moment de la célébration ou de l'enregistrement de leur mariage, on leur applique automatiquement ces régimes des droits communs qu'on appelle les régimes de la communauté réduite aux acquis. Et le troisième régime, c'est le régime de la séparation des biens, c'est-à-dire que pendant ou avant le mariage, tous les biens acquis par les conjoints demeure la propriété exclusive de chacun des époux. Donc ces époux n'ont rien en commun, chacun a ses biens et il n'y a pas de communauté. Donc c'est ça là, en bref, les trois régimes matrimoniaux prévus par la loi.
Alors maître, parmi ces trois régimes, on a l'impression que c'est la communauté des biens qui est beaucoup plus appliquée.
Effectivement, et cela est dû aussi à notre mentalité africaine, on ne conçoit pas qu'un couple vive avec des biens séparés. Mais de plus en plus, dans les milieux des intellectuels, cette forme des régimes commence à s'imposer ou à prendre un peu d'espace des problèmes que l'on constate le plus souvent, soit au moment de la séparation, en cas de divorce, ou au moment du décès de l'un des conjoints, pour ce qui est du partage de la succession. Dans la plupart des cas, les femmes particulièrement sont dépossédées de tous les biens, oubliant même qu'il y en a qui ont travaillé et qui ont contribué à l'acquisition de ces biens. C'est des abus qui font que certaines personnes commencent à pencher un peu pour la séparation des biens.
Voilà, Barba est en ligne depuis Colosi. Bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Barba.
Ah oui, j'ai une intervention à ce sujet.
Oui.
C'est une pratique qui est vraiment souvent ici chez nous dans la ville de Colosi. Hein. Je voulais un peu en savoir. Parce que quand il y a mariage civil, les deux parties se présentent à l'officier de l'état civil.
Oui.
Après, ils s'arrangent, bon, on dit qu'on a créé la dot, tout ça, on a tout donné. Et on livre l'extrait de mariage. Pendant le parcours maintenant du mariage, si souvent c'est la femme, l'un des conjoints qui mourait, souvent c'est la femme, si la femme mourait, on commence à tracter le mari qui est resté, bon, en disant qu'il faut qu'il ajoute ce qu'il avait donné, et souvent ce sont des montants qui vont au-delà de 2 000 $, tout ça. Du moment que le conjoint a l'extrait de mariage livré par l'officier de l'État, en ce cas-là, comment est-ce qu'on peut s'en prendre? C'était cela ma préoccupation.
Oui, Barba, qui exige au conjoint d'ajouter de l'argent?
C'est la famille, l'autre famille. Hein?
D'ajouter sur la dot?
Oui, sur la dot. Donc, on impose une autre dot avant l'enterrement.
Maître Dominique.
Ça, il s'agit effectivement d'une pratique interdite par la loi. Cette pratique-là ne peut pas, en tout cas, avoir opinion, ne peut pas être faite chez nous ici en République démocratique du Congo parce que la loi l'interdit. La loi interdit toute pratique coutumière qui exige le versement d'une dot en cas de décès ou une dot des rachats. Donc, ce sont des pratiques extra-légales. On ne peut pas les appliquer en principe. La dot doit être exigée au moment du mariage coutumier, et dès qu'elle est versée et que le mariage est enregistré, en principe, c'est fini. Mais nous connaissons dans nos coutumes, dans nos habitudes, où on dit, bon, on ne finit jamais de payer la dot, mais cela s'entend par l'esprit de la solidarité africaine, où on dit on peut aller dans la belle famille quand on a un problème, on peut aider, mais cela ne peut pas devenir une exigence dans ce sens-là. Ça, c'est une pratique en marge de la loi.
Martin Safari nous appelle de Kinshasa, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste.
On vous écoute.
Oui, je voulais poser une question au juriste qui est à côté de vous.
Oui.
Concernant s'il y a une différence entre un mariage solennellement célébré et un mariage enregistré tout court. Et la deuxième question, c'est concernant la dot. Si vous êtes entendu avec la belle famille, vous devez déposer un montant. Et ce montant a été versé. Mais après quoi, votre beau-père avait changé d'avis pour dire que non, vous devez augmenter un montant, parce que ce montant était insuffisant, après que vous ayez un arrangement à bonne forme au niveau de la famille. Quel peut être le comportement de conjoint ou soit de ceux-là qui veulent, coûte que coûte, faire les mariages civils?
Merci beaucoup, Martin. En ce qui concerne l'enregistrement du mariage et la célébration, donc les mariages enregistrés ou célébrés, la différence réside dans la forme. Sur les plans de la forme, les procédés, les formalités sont différentes, mais en ce qui concerne la valeur du mariage, il n'y a pas de différence. En ce qui concerne les conséquences des mariages, il n'y a pas de différence. Donc, la nature juridique du mariage enregistré ou célébré demeure la même, et les conséquences du mariage demeurent les mêmes. Donc, il n'y a pas de différence sur les plans juridiques entre le mariage célébré et enregistré. La différence est au niveau de la forme. La manière dont c'est fait l'enregistrement est différente et la manière dont c'est fait la célébration. La célébration s'entoure des solennités et des formes prescrites par la loi, tandis que pour l'enregistrement, ces solennités ne sont pas exigées. La différence, c'est juste au niveau de la forme. Sur le fond, les conséquences juridiques, il n'y a pas de différence. En ce qui concerne votre deuxième préoccupation, nous, en droit, on dit que le mariage est un contrat, est un accord. Dès que les parties se sont mises d'accord sur les conditions, la dot et tout ça, cette dot est valable. On ne peut pas la réajuster après. Je comprends que nous sommes africains, le beau-père peut avoir des besoins et demander à son gendre ou son beau-fils
de rajouter,
pas de rajouter de la dot, mais de lui venir en aide.
Oui.
Mais quand la dot a été convenue entre deux familles et versée comme telle, je crois que c'est un point clôturé. Il n'y a pas des choses à exiger ou à modifier. Ce n'est pas une marchandise qui s'est dépréciée ou qui a eu sa valeur ajoutée et pour laquelle il faut ajouter de l'argent.
La dépréciation de la monnaie.
Voilà, ce sont des pratiques qui ne sont pas admises conformément.
Et comment signifier ça au beau-père? Ça, c'est encore une
autre problème. Dès que les deux parties et leurs familles se sont mises d'accord sur la valeur, le contenu de la dot et qui s'est réglé, s'est arrêté, ça ne se réévalue plus après en principe.
Dieu nous appelle depuis Béni. Bonjour Dieu.
Bonjour.
Oui, on vous écoute Dieu.
Ok, je voulais juste savoir, moi ça fait déjà 10 ans que j'ai contracté mon mariage.
Oui.
Alors, à partir de cette année jusqu'à ce jour, je ne suis jamais présenté devant le système de l'état civil pour un mariage civil.
Oui.
C'est pourquoi je voulais demander. Est-ce possible que je puisse me présenter alors que tout le mariage a été contracté à mon absence? J'ai envoyé de l'argent à Mandaka, on a célébré le mariage et je suis ici. Alors je sais quelle possibilité je peux arriver là-bas pour que le mariage civil soit contracté.
En principe, les mariages civils, vous pouvez, si votre épouse ou votre fiancé vous a déjà rejoint et qu'il y a des preuves qu'il y a eu remise de la dot, vous pouvez le contracter. Même ici, ce n'est pas nécessairement exigé que vous alliez en Mbandaka. On demande parfois qu'au moment de la remise de la dot, que les deux parties signent un acte et cela peut prouver qu'il y a eu célébration en famille, il y a eu remise de la dot. Si le mariage vient d'être célébré, on peut, avec ces documents, les faire enregistrer sans beaucoup de formalités.
Voilà. Grec, depuis Lubumbashi, bonjour. Grec, on vous écoute.
Oui, en fait, ma préoccupation est celle-ci. Oui, ok, je parle, ma préoccupation est celle-ci. J'ai entendu Maître Dominique. J'ai entendu Maître Dominique dire que le mariage constatation, il se retrouve déjà puisque c'est un juriste, le mariage constatation est irrégulier. Puisque c'est un mariage qui est fait en famille. En fait, j'interviens en tant qu'étudiant à la faculté de droit de l'université de Lubumbashi. Je pense que le mariage constatation n'est pas irrégulier. Seulement, il y a des conséquences juridiques néfastes. Mais sont mariés, les personnes qui peuvent se marier aussi en famille, avec l'obligation de se faire enregistrer devant l'officier de l'état civil compétent dans le 30 jours qui suivent ces mariages. C'est ça mon problème. Le terme irrégulier, je trouve qu'il n'est pas
bien placé.
Merci beaucoup, Greg, depuis étudiant à l'université de Lubumbashi. Maître Dominique, je vais vous accorder la parole tout à l'heure pour conclure une fois pour toutes. Le temps de lire quelques réactions. Joseph Akananga, si la loi ne reconnaît pas la polygamie, reconnaît-elle les enfants issus de la polygamie? Bienfait de Bounia dit, quels sont les éléments qui peuvent mettre fin ou annuler le mariage? Alors, en conclusion, Maître Dominique, rapidement.
J'ai dit d'abord que je n'ai pas parlé de mariage constatation, j'ai parlé du mariage qui est célébré en famille et que l'on peut enregistrer ou célébrer devant l'officier de l'état civil. Mais lorsque ce mariage fait en famille n'a pas été ni célébré ni enregistré, il n'est pas opposable au tiers, on ne peut pas s'en prévaloir en public. Les effets restent au niveau de la famille, c'est-à-dire que c'est un acte qui n'est pas juridiquement reconnu et dont on ne peut pas se prévaloir.
Maître Dominique, merci et bon début de semaine.
Merci.